Dans cette édition, vous entendrez la frappe qui a suspendu son mouvement après quelques minutes de grève cette nuit. Bilan et objectif du groupe de la brasserie de Tahiti avec Jean-Pierre Fourcade qui était notre invité hier. Et pour finir, ce portrait de Théo Bertrand. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréo. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Et on commence tout de suite avec ce fait divers.
Oui, un mot d'abord sur ce fait divers révélé par TNTV il y a quelques minutes. Deux jeunes surfeurs ont été victimes de la chute d'un arbre hier après-midi à Tahotira. Ils ont été pris en charge par un hélicoptère et évacués vers le Taoné, mais l'un des deux, âgé de 11 ans, n'a pas survécu à ses blessures. L'autre, un enfant de 10 ans, est gravement blessé. D'après la chaîne de télé, l'arbre avait été fragilisé après un feu dans ses racines.
Et dans le reste de l'actualité de ce mercredi, la frappe entretient le suspense.
Et oui, le syndicat l'avait annoncé hier soir, la grève de la fonction publique territoriale qui devait débuter ce matin est suspendue. Ce n'est pas la première fois que la frappe freine juste avant le mouvement. Elle avait déjà suspendu sa mobilisation à la dernière minute en janvier dernier et avait tenté de réactiver le préavis 5 mois plus tard. La manœuvre avait été sanctionnée par la justice et le syndicat a donc changé de stratégie. La lettre officielle de suspension a été envoyée au gouvernement quelques minutes après le début de la grève à minuit. C'est ce qu'explique Gérard Barf, le secrétaire général délégué de la frappe.
À minuit 01, on était en grève. Après, on a déposé, on a écrit au président courrier pour lui dire que nous suspendons la grève, pas le préavis de grève, pendant la grève, en attendant que cette fameuse commission de conciliation ou l'inspectrice soit la médiatrice et qu'on puisse encore retourner autour de la table. Et s'il n'y a pas, c'est reparti. Et à ce moment-là, on refera une autre conférence de presse pour appeler tous les fonctionnaires à se regrouper devant la présidence pour manifester sur la charte de la vie et la place.
Voilà un changement de stratégie pour la frappe et une demande, vous l'avez entendu, d'une commission de conciliation. Difficile de dire si elle sera réellement réunie puisqu'elle ne semble exister jusqu'à présent que sur le papier. L'autre question, c'est son utilité puisque le gouvernement a très clairement expliqué qu'il ne souhaitait pas renégocier avec la frappe le point d'indice des fonctionnaires. Et surtout, le doute demeure sur les raisons réelles de cette suspension du mouvement. Hier soir, la fédération expliquait que des échanges avec des professionnels du tourisme et avec les chefs de groupe du Heiva avaient pesé dans la balance, mais la décision était déjà prise d'avance, assure Gérard Barf. Il s'agirait surtout de laisser une dernière chance à la négociation.
Ça nous a confortés dans ce qu'on voulait. L'intention était déjà partie le matin pour trouver des solutions encore de ne pas partir en grève. Je répète encore, ce n'est pas de gaieté de cœur d'aller en grève. Vous voyez, je crois que puis on se fait insulter et tout, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Et donc, on avait l'intention de saisir encore un dernier recours que la législation nous le donne, justement, de faire encore des discussions, de ne pas partir en grève. Et on a suivi aussi ce que le juge des référés a dit, consulter la commission. Et donc celle qui doit saisir, c'est l'inspectrice du travail. Et on attend la réponse de l'inspectrice, est-ce que ça va se faire ou pas?
Voilà le secrétaire général délégué de la frappe et chef de file du syndicat des pompiers d'aérodrome qui indique que la grève peut être redéclenchée à tout moment. Lundi soir, après l'échec des négociations à la présidence, Moëtia Ibroversen s'interrogeait à haute voix sur la capacité réelle de mobilisation en dehors de ces pompiers de la frappe qui mènent un conflit depuis maintenant 8 mois. On sait par exemple que du côté de la Maison de la Culture, où un premier accord partiel avait été signé la semaine dernière, tout le monde n'était pas partant pour une nouvelle grève. C'est peut-être justement pour prendre le temps de mobiliser au maximum que la frappe a préféré attendre, mais pas attendre des semaines ou des mois, préviennent ces chefs de file qui, vous l'avez entendu, préparent un grand appel au rassemblement des fonctionnaires devant la présidence.
Vous écoutez le journal de la rédaction. On parle maintenant de ce problème foncier évoqué à l'Assemblée nationale.
C'est la députée Nicole Sanquer qui a parlé de ces familles dont les terres se trouvent à côté du dépôt de munitions de Papéhari. Exactement, ils sont dans ce qu'on appelle le polygone de sécurité, soit 1000 mètres autour des bâtiments militaires. Et le problème pour ces propriétaires, c'est qu'ils ne peuvent rien construire sur leurs terres à cause de ces installations de l'armée. Nicole Sanquer a plaidé leur cause en séance à l'Assemblée nationale.
Ces familles ne peuvent plus rien faire de leur terre, qui pour beaucoup représente leur seul patrimoine. Dans une collectivité où la terre est rare, précieuse et profondément liée à l'identité familiale et culturelle. Et pourtant, l'armée vient d'émettre un second avis défavorable, sans explication ni transparence. Et pire encore, Aucune indemnisation n'a été proposée aux propriétaires qui voient leurs biens perdre toute valeur sans possibilité d'y construire leur maison et de démarrer leur vie.
La députée a donc demandé au ministre des Armées de lever cette opposition ou d'indemniser les familles. Réponse de la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Patricia Mirales, qui était chargée de lui transmettre la réponse de Sébastien Lecornu. Pas question de changer les règles de construction à proximité de ces bâtiments de l'armée. Et si ça ne convient pas aux propriétaires, ils peuvent toujours aller devant le tribunal administratif demander une indemnisation.
On change tout à fait de sujet avec Jean-Pierre Fourcade. Il quitte la brasserie de Tahiti et il a fait un bilan hier sur nos antennes.
Il a laissé depuis le 1er juillet la direction du groupe à Tuteho Martin. Il cultive une grande discrétion dans les médias, mais il était hier donc sur le plateau de Radio 1 et Thierry FM pour en parler. Il est revenu sur le développement économique du groupe. Beaucoup de changements depuis son arrivée à la tête de ce groupe en 92, qui réunit désormais plusieurs entreprises dans de multiples secteurs, l'industrie, le fret maritime, l'importation, l'hôtellerie, le textile, l'imprimerie ou encore l'immobilier, de 375 à plus de 2000 collaborateurs, de 6 à plus de 50 milliards de francs de chiffre d'affaires.
J'ai pensé surtout à la petite économie, si je peux m'exprimer ainsi, des îles, des atolls et des îles éloignées. Et je me suis dit, l'hôtellerie est certainement un moyen intéressant et important pour créer de l'emploi dans toutes ces îles. Les gens sont demandeurs de travail. Donner un emploi à un Polynésien, aujourd'hui, c'est lui apporter une dignité. C'est lui apporter les ressources nécessaires pour créer une famille, pour s'acheter une maison, pour vivre, pour éduquer ses enfants. Et je pense que c'est un point très important. Enfin, tout pour moi, ça a été un point très important.
Le rythme d'acquisition effréné de ces dernières années a souvent interrogé, parfois agacé, dans le paysage économique du Fénois. Jean-Pierre Fourcade parle, lui, d'une expansion calculée, réfléchie et surtout basée sur les opportunités d'achat.
Et on ne veut pas tout racheter et on ne veut pas tout prendre, pas du tout. On a un plan de développement, des entreprises sont à vendre, on se présente pour les reprendre et à certaines fois, on n'a pas réussi à les racheter puisque d'autres personnes se sont présentées et on les a rachetées à notre place. Donc voilà, donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout une volonté d'hégémonie de tout prendre, non.
Et ni de déstabiliser le marché. Pour ce qui est de l'entrée plutôt fracassante dans la grande distribution face notamment au groupe Van, il n'y a pas eu de création de magasins, dit Jean-Pierre Fourcade, mais une reprise de ce qui existait pour, je cite, proposer des prix intéressants pour la population polynésienne. Et ce plan développement et d'investissement arrive en fin de cycle.
Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup à faire. On a parlé des investissements dans les nouveaux navires, les hôtels aussi qui vont continuer à se rénover ou être construits. On va peut-être faire une petite pause aujourd'hui, à moins que d'autres opportunités particulières se présentent, mais on n'a pas en tête ou dans notre objectif d'autres développements particuliers dans d'autres secteurs d'activité.
Voilà, son interview exclusive est à retrouver sur notre page Facebook et sur notre site radio1.pf.
Après l'économie et les sujets sérieux, un peu de légèreté avec ce portrait. Connaissez-vous Théo Bertrand ?
Et oui, ceux qui suivaient la série Plus belle la vie le connaissent forcément. Il a joué le personnage de Kevin Bellesta de 2014 à 2022. Et Théo Bertrand est à Tahiti depuis plusieurs mois, l'occasion de le rencontrer en vrai. Il est venu dans les studios de Thierry FM et Radio 1 où il est revenu sur son histoire. Il a plusieurs fois raconté comment tout s'était arrêté d'un coup pour lui, la série, mais aussi une relation amoureuse, un peu beaucoup et donc une grosse déprime avant finalement de partir en voyage et puis d'arriver jusqu'ici à Tahiti où il a commencé à poster des vidéos. Il raconte ce qu'il voit, ce qu'il entend, ses surprises et ça marche. Il compte 48 000 abonnés sur Facebook, 150 000 sur Instagram et presque 200 000 sur TikTok. On peut parler d'un vrai coup de cœur entre lui et les Polynésiens.
Il y a eu un coup de cœur, je me permettrai jamais de dire que je suis chez moi, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé des gens qui me comprenaient et je comprends ces gens. C'est un peu bizarre à dire. En France, j'ai toujours été vu un peu comme un ovni. Tu vois, tous les trucs qu'on aime de moi ici, en France, on l'aimait, mais il y a aussi des gens qui me trouvaient bizarre. Ici, on me trouve pas bizarre. On a plein de points communs. Le fait de pas être trop gêné d'aller voir les gens dans la rue, d'avoir ce truc-là assez simple, d'aborder les gens, c'est quelque chose qui me fait du bien. Au moral, quoi.
À chaque fois dans ses vidéos, il s'attache à une anecdote, une habitude, une rencontre. Parfois, il fait parler les copains et ce sont les Polynésiens eux-mêmes qui rigolent de leurs habitudes ou s'interrogent aussi. On dit qu'on est trop gros, mais c'est peut-être le poids des Français le problème. Des vidéos légères où Théo Bertrand veut montrer la vraie Polynésie.
C'est ce que j'aime faire en fait. J'aime partager avec des gens. Je fais pas ça pour autre chose que rencontrer. Parce que quand je fais ce genre de vidéos, je suis pas rémunéré. C'est aussi un moyen d'expression. Moi, ça me fait du bien. Je trouve ça cool quand les gens me disent « Ah, on a l'impression de voyager ». Ça me fait plaisir de pouvoir montrer le monde autrement tel qu'il qu'il est, tu vois. En fait, mon but à Tahiti, c'est de faire le moins possible de vidéos où on voit le lagon. Parce que y a pas que ça, en fait. C'est surtout filmer les gens. S'il y a des gens dans le lagon, moi, je les filme, tu vois, et voilà. Mais moi, j'aime bien aller dans les quartiers parce que c'est toujours été une passion pour moi.
Et dernier défi en date du voyageur, participé au Heiva. Il raconte bien sûr ses progrès en paoti. Il a d'ailleurs fait une petite démonstration dans nos studios. Il dansera donc pour Atoro i Rai, qui est programmé ce jeudi en catégorie Ura Avato. Et il a le track, mais il dit que participer à cet événement, c'est la plus belle des récompenses. Vous pouvez revoir l'interview en intégralité sur notre site radio1.pf et notre page Facebook.
Et on termine avec ces spectacles prévus tous les week-ends du mois de juillet.
Et vous le savez, donc il y a le Heiva Itaiti, les trois dernières soirées de concours sont prévues jeudi, vendredi et samedi, et à peine ce sera terminé qu'un autre événement commence. Cette fois, pas un concours, mais des représentations des groupes de chant et de danse sur le marais de Paea. C'est organisé par le Conservatoire artistique de Polynésie française et ça s'appelle le festival Tuifara. Ça commence donc ce week-end avec Hei Tahiti et Reo Papara samedi et Mano Hiva et Tamari Tiperui dimanche. Chaque spectacle commencera à 15h45 avec le groupe de chant suivi du groupe de danse. Tout le programme est à retrouver sur la page Facebook du Conservatoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.